Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile nous rappelle, en ce dixième dimanche après la Pentecôte, comme chaque année à cette période, la parabole du pharisien et du publicain, parabole évidemment bien connue avec cette conclusion de notre Seigneur Jésus-Christ, quiconque s'élève sera humilié et quiconque s'humilie sera élevé. Il est donc question ici d'orgueil et d'humilité et d'orgueil. Et ces deux derniers dimanches, je vous ai parlé d'un péché capital qui est la paresse, et qui est, je dirais, presque sous-estimé finalement dans nos examens de conscience. L'orgueil est un autre péché capital et certainement le plus grave, puisque par l'orgueil nous nous élevons au-dessus de Dieu. Pour l'orgueil le plus grave, tout homme est orgueilleux. Ceux qui refusent cette réalité, qui se prétendent humbles, déjà le fait de se prétendre humble, de ne pas réfléchir sur nos caractéristiques orgueilleuses, est déjà un problème au niveau de notre vie spirituelle. Saint Benoît, dans sa règle, a un chapitre très long, et c'est une des sources principales, bien sûr, des auteurs spirituels sur l'humilité, ce chapitre 7 avec ses 12 degrés, 12 échelons de l'humilité. Et Saint Benoît, qui est même repris par Saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, qui nous rappelle que l'humilité est l'une des vertus fondamentales. Il y en a d'autres selon plusieurs points de vue. Bien sûr, la foi est une vertu fondamentale, puisque sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La charité est une vertu fondamentale, puisque la charité, c'est l'amour de Dieu, et c'est l'amour de Dieu qui est le fondement de toute vertu. Mais l'humilité est aussi une vertu fondamentale. Et au début de ce chapitre sur l'humilité, Saint Benoît fait référence à cette vision du patriarche Jacob. Vous savez, cette échelle qu'il a vue monter au ciel, et puis sur cette échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Saint Benoît fait son commentaire spirituel à propos de cela. Ce n'est pas forcément le sens premier, n'est-ce pas, de la vision de Jacob pour lui-même, mais ce n'est pas grave. Les auteurs chrétiens, les auteurs spirituels ont souvent utilisé de façon accommodatrice ce genre de texte de la Sainte Écriture, et avec pleine conscience, pour expliquer des éléments de notre vie spirituelle. Et Saint Benoît dit donc ceci: cette descente et cette montée, donc des anges, signifient pour nous, sans aucun doute, que l'on descend par l'élèvement, exaltatione, et qu'on monte par l'humilité. Et là encore, tradition spirituelle oblige, on est évidemment dans les paradoxes, celui qu'on retrouve chez notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'élève, exaltat, humiliabitur, sera humilié, celui qui s'humilie sera élevé. Et donc, la conclusion, effectivement, Saint Benoît, c'est que l'on descend par l'élèvement et l'on s'élève par l'humilité. Et c'est tout à fait vrai, parce que l'élèvement ou l'orgueil, exaltat, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Benoît dit exaltatione, dans exaltatione il y a le mot altus, haut, donc qui est le mouvement de s'élever, voire plus haut. Dans le mot humilité, il y a le mot humus, n'est-ce pas, la terre. L'humus, et donc on a ces deux réalités, le haut et le bas. Et donc celui qui s'élève, en fait, il descend, et celui qui s'humilie, il s'élève. Voilà donc le paradoxe. Comment ? Eh bien, c'est très simple. Par l'orgueil, que fait l'homme ? Par l'orgueil, l'homme s'établit en tant que référence. C'est ça la réalité. L'orgueil, c'est un amour désordonné de soi-même. Donc, l'orgueilleux, il se met à son propre niveau et il s'enferme en lui-même. À l'échelle de l'humanité, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est cette manière pour l'homme de se centrer sur lui-même. Sauf que l'homme, c'est pas ce qu'il y a de plus élevé dans la réalité. Ce qu'il y a de plus élevé, c'est Dieu. Par conséquent, si l'homme reste en lui-même, à son niveau, en jugeant tout à partir de sa propre mesure, c'est ce que disaient déjà les faux philosophes de l'Antiquité, les fameux sophistes, qui disaient que l'homme est la mesure de toute chose. C'est exactement la définition, en fait, de l'orgueil. L'homme étant la mesure de toute chose, il est à sa mesure, et en fait, l'homme est bas. Donc, il prétend s'élever en voulant mesurer toute chose. Il s'élève dans son intention parce que mesurer toute chose n'appartient qu'à Dieu seul. Donc l'homme se prend pour Dieu, en fait. Et se prenant pour Dieu, il prétend s'élever. Sauf qu'en réalité, il n'est pas Dieu. Et donc en se renfermant sur lui-même, il se rabaisse lui-même. Nonobstant le fait que, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'élève sera humilié. De toute manière, à un moment donné, notamment au jugement, eh bien chacun sera confronté à sa propre réalité, à ses propres faiblesses, à ses propres péchés, et donc sera remis à sa place, à sa juste valeur. Donc l'orgueil, c'est cela. Donc l'orgueil est effectivement une forme d'élévation, se mettre au-dessus de ce qu'on est réellement. L'humilité, au contraire, c'est établir Dieu comme référence, donc nous mettre à notre place dans la petitesse. Et donc l'humilité est un mouvement en même temps de rabaissement, dans ce sens que nous nous mettons où nous sommes, c'est-à-dire sur terre, des pauvres hommes, pécheurs, avec des défauts, qui ont une intelligence qui est faillible, qui peut se tromper, qui ont une volonté qui peut être faible, etc. Donc il y a cette conscience de où on se trouve, c'est-à-dire en bas, sur terre, humus, n'est-ce pas ? C'est l'humilité. Eh bien, si on veut être à ce niveau-là, il faut impérativement considérer que Dieu est au-dessus de nous, pour nous mettre à notre place. C'est pourquoi on dit, à juste titre, que l'humilité, c'est la vérité. L'humilité, c'est la vérité parce que l'humilité met chaque chose à sa place. Dieu à sa place, l'homme à sa place, les autres êtres de la création à leur place. Tout simplement. Le problème, c'est quoi ? C'est le péché originel. C'est-à-dire ça, c'est l'ordre normal. Le problème, c'est que nous sommes des êtres avec une intelligence et une volonté. Donc, nous pouvons dévier de notre place. Nous pouvons vouloir nous mettre plus haut que notre place. Nous pouvons nous considérer comme le faisaient les anciens sophismes, comme la règle de toute chose, la mesure de toute chose, comme le font, bien évidemment, nos contemporains. Par conséquent, pour se garder de l'orgueil, et donc pour pratiquer l'humilité, il va falloir travailler sur cette réalité dans notre esprit, dans notre mentalité de où est notre place. Et cela va s'exprimer de façon concrète de nombreuses manières, notamment à travers les deux facultés de l'homme principales, les deux plus importantes, puisque ce sont ces facultés qui font que l'homme est homme, c'est-à-dire animal rationnel, à savoir la connaissance rationnelle, l'intelligence et l'appétit rationnel qu'on appelle la volonté, qui comprend bien évidemment la liberté. Donc comment l'orgueil va se manifester et comment l'humilité va se pratiquer? Dans l'intelligence et dans la volonté. Et d'abord dans l'intelligence, puisque, comme vous le savez, nil volitum nisi preconitum, rien n'est voulu qui ne soit d'abord connu. Ça faisait quelque temps que je vous l'avais pas dit. Donc rien n'est voulu qui ne soit d'abord connu. Le fait d'attaquer notre intelligence par l'orgueil va attaquer aussi notre volonté, et inversement. Donc on va créer le désordre. Le désordre, il est là. Ce sont des conséquences, bien évidemment, du péché originel. Mais toute notre vie chrétienne, toute notre vie spirituelle, consiste à travailler contre ces conséquences du péché originel, avec l'aide de la grâce de Dieu, qui va s'exprimer à travers les différentes vertus qui vont perfectionner justement notre intelligence et notre volonté. Que ce soit les vertus théologales, foi, espérance, charité, que ce soit les vertus morales, principales, hein, prudence, justice, force, tempérance, toutes ces vertus vont venir pour rééquilibrer, réordonner, bien évidemment, notre intelligence, notre volonté et bien sûr notre partie sensible. Donc dans l'intelligence, mes bien chers frères, comment se manifeste particulièrement l'orgueil? Eh bien dans l'attachement au jugement personnel. L'homme est la mesure de toute chose, chacun sa vérité. C'est l'homme qui forge ses propres opinions et sa propre vérité. C'est l'orgueil le plus fondamental. D'une certaine manière, bien évidemment, le plus grave. Pourquoi ? Parce qu'il ruine absolument tout l'édifice de notre vie spirituelle. Si on considère que nous sommes à l'origine de toute vérité, que l'homme va décider de tout ce qui est, en fait, il se prend directement pour Dieu. Il se prend directement pour Dieu. Et c'est le summum, bien sûr, de l'orgueil. Alors que la vérité, nous la recevons. Nous la recevons dans ce sens que la vérité, c'est tout ce qui est créé par Dieu, d'abord, dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel. Donc, tout ce qui est Dieu lui-même, évidemment, indépendamment de toute chose, il est par lui-même. C'est la propre définition qu'il a donnée, « je suis celui qui suis », et c'est ainsi que le définissent les théologiens, bien sûr, en s'appuyant sur cette révélation à Moïse dans le buisson ardent. À partir de cela, ça veut dire que tout ce qui est en dépendance de Dieu. Et donc, tous les êtres qui connaissent, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît ce qui est. Donc on est en dessous de cet être. Si on se met au-dessus, on se met à la place de Dieu. Et donc on reforge la réalité selon nos propres idées. Bien sûr, dans ce diagnostic de déviance spirituelle et intellectuelle, il y a de très 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 nombreux degrés, on est bien d'accord, parce qu'il y a des gens qui sont tellement terre à terre, qui ne réfléchissent à rien, qu'ils ont une vie quasi animale, où effectivement, ils n'ont pas tellement l'intention de reforger la réalité. Mais attention, ils le font en fait, parce que en se faisant animaux, ils ne respectent pas leur propre être d'homme. Donc ceux qui considèrent l'homme comme un être purement matériel, comme un être qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, ils reforgent la réalité. Et donc même s'ils se comportent bestialement comme des animaux, en réalité derrière il y a cet orgueil. Donc il faut se garder de cela. Il faut s'en garder dans notre vie chrétienne, parce que, je le rappelle, je le dis à chaque fois, c'est bien beau de s'en prendre à nos contemporains qui effectivement sont très orgueilleux, mettent la science par-dessus toute chose, et une science qui est souvent coupée justement de la véritable science qu'est la théologie, la vraie, hein, pas une théologie réinventée, et la véritable philosophie. Eh bien, nous sommes tous touchés par le péché originel. Donc, sans aller dans ces excès les plus importants, nous aurons tous cette tendance à vouloir créer, en quelque sorte, notre propre réalité, créer notre propre vérité, au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu a créé, sur la réalité en tant que tel. Au niveau de notre vie chrétienne, bien sûr, au niveau de notre vie intellectuelle, je ne vais pas vous faire tous les développements, mais au niveau de notre vie intellectuelle, on doit être humble dans notre recherche de vérité au niveau naturel, puisque les vérités naturelles sont connaissables, les choses naturelles sont connaissables, il faut se soumettre à ces réalités sans les tirer par les cheveux, sans faire des hypothèses extravagantes, et surtout sans conclure de ces hypothèses extravagantes sur des sujets qui ne concernent pas ces hypothèses, comme tous ces pseudo-scientifiques qui vont prétendre que l'athéisme est absolument nécessaire, alors qu'un vrai scientifique ne peut que s'élever vers l'existence de Dieu. Au niveau pratique de notre vie chrétienne, c'est tous les jugements propres. Moi, j'estime que... Plus concret pour chacun d'entre nous. Oui, ben la prière ou la messe du dimanche, ça me fait du bien, mais on peut prier autrement. C'est pas nécessaire cela. Chacun a sa relation à Dieu, tout simplement. Sauf que il y a une société des chrétiens qui est l'Église catholique, et cette société nécessite qu'il y ait des prières communes publiques. Parmi ces prières communes publiques, il y a la messe obligatoire du dimanche. C'est pas une option, c'est pas un jugement personnel. C'est le jugement de Dieu et c'est le jugement de l'Église. Si on se dit « Oh, ben moi je peux faire autrement, je sens dans mon cœur que je suis mieux à la maison à prier, etc. » Orgueil. Notre jugement est au-dessus de celui de Dieu, au-dessus de celui de l'Église. Et donc vous voyez que le jugement va influer sur l'action, sur notre volonté. Donc l'orgueil va commencer dans notre intelligence qui va être dévoyée. On va mettre son jugement au-dessus du jugement de Dieu, au-dessus de la réalité au niveau philosophique, au-dessus du jugement de Dieu, au niveau théologique et moral, au niveau de la foi, et par conséquent, on va pouvoir faire ce qui plaît selon notre jugement. C'est l'orgueil. Donc on s'élève à la place de Dieu. C'est pourquoi, dans nos sociétés, c'est l'homme qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Parce que l'homme est la mesure de toute chose. Donc c'est bien de tuer les personnes âgées ou ceux qui se sentent mal, dépressifs, etc. C'est bien de leur offrir la possibilité de mourir, parce que, après tout, chacun doit pouvoir être libre de mourir comme il veut, dignement. On ne se pose pas la question « qu'est-ce que je dois faire ?» On ne se pose pas la question « est-ce que ma vie m'appartient vraiment ?» Est-ce que je suis vraiment le maître de toute chose et spécialement de moi-même? C'est de l'orgueil, c'est se mettre à la place de Dieu. Donc, dans la pratique, ben on a l'homme réuni en société, donc les chambres des députés et compagnie, qui vont faire la loi à la place de Dieu, en fait. C'est l'homme qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc autrefois, ce n'était pas bien de divorcer, maintenant c'est bien. Autrefois, ce n'était pas bien d'avorter, maintenant c'est bien. Autrefois, c'était pas bien de tuer les vieux, les malades, les trisomiques et compagnie, maintenant c'est bien. Et ce sont des avancées, soi-disant. Mais non, ce sont pas des avancées parce que justement, plus ils s'élèvent sur des choses graves par rapport à Dieu, puisqu'ils se prétendent maître de l'homme, maître de la vie, ils prétendent définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils finissent dans les pires horreurs. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et une fois de plus, mes bien chers frères, ça commence comment ? Ça commence à notre niveau, à nous. À notre niveau, à nous, parce que nous aussi, nous avons tendance à reforger notre morale. Je vous le disais par rapport au mariage, oui, mais n'est-ce pas, comme on entend, hein, plusieurs fois ces dernières années, on a vu les commissions diocésaines pour ces questions-là, notamment en Besançon, dire « c'est vrai qu'on devrait évoluer, permettre, donner plusieurs chances aux gens, donc permettre le divorce en d'autres termes ». On reforge tout. Alors que notre Seigneur est clair dans l'Évangile, plus que clair par rapport à cette question. Oui, mais c'était autrefois. Donc en fait, on n'est même plus chrétien, on s'appuie même plus sur l'Évangile. C'est du pur protestantisme, hein. Les Luther et Calvin et compagnie, ce sont les premiers à avoir permis, autorisé les divorces multiples. Soit dit en passant, sous prétexte de la fameuse épiquie, ex professo, ils font appel, selon eux, à l'épiquie pour se débarrasser de la perpétuité du mariage. Donc attention à cette fameuse épiquie dont certains ne parlent que trop et appliquent mal. Et là encore, une forme d'orgueil. L'orgueil mène à quoi ? À la désobéissance. C'est pour cette raison d'ailleurs que saint Benoît, dans son chapitre sur l'obéissance, précédant celui de l'humilité, donc chapitre 5, le 6 c'est sur l'esprit de silence, il dit que le premier degré d'humilité, c'est l'obéissance. C'est justement la soumission à Dieu. Parce que lorsque nous nous soumettons à Dieu, et à Dieu aussi à travers l'ordre des supérieurs, notamment ceux de l'Église, et puis des supérieurs à chaque niveau, eh bien, on renonce à soi-même. On se met à une place inférieure par rapport au supérieur, par rapport à Dieu, et par conséquent, on est dans l'humilité. Donc, de l'humilité, on peut beaucoup parler. Saint Benoît a son chapitre le plus long, avec ses 12 degrés d'humilité, dont certains, évidemment, sont très particulier, très monastique, mais qui peuvent quand même s'appliquer, mutatis mutandis, en changeant ce qui doit être changé pour les fidèles. Mais le message, il est bien là et il est effectivement pour tout le monde. À savoir que nous descendons par l'orgueil et nous nous élevons par l'humilité. Nous descendons par l'orgueil parce que on veut se mettre au-dessus de ce que nous sommes réellement. Mais en se mettant au-dessus de ce que nous sommes réellement, eh bien, nous finissons dans tous les désordres possibles parce que nous allons contre l'ordre naturel, contre l'ordre surnaturel. Et oui, donc, celui qui s'élève, qui se met d'une manière ou d'une autre à la place de Dieu, eh bien, en fait, il se rabaisse. C'est mathématique, c'est inévitable. Et c'est ce que nous avons sous les yeux dans la société. Plus les sociétés s'élèvent au-dessus du jugement de Dieu, au-dessus de la foi, au-dessus de la réalité, au-dessus des commandements de Dieu et de l'Église, plus les sociétés s'abaissent. plus elles deviennent sauvages en réalité, avec une règle qui devient la loi, la raison du plus fort. Nous l'avons sous les yeux et pourtant, nous en participons. À chaque fois que nous mettons notre jugement propre en avant contre le jugement de Dieu, contre le jugement de la Sainte Église, parce que j'insiste là-dessus, l'Église parle, a toujours parlé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, ceux qui occupent les sièges dans l'Église aujourd'hui, pourquoi on voit qu'ils ne parlent pas au nom de Dieu? Parce qu'ils viennent contredire de façon grave tout ce qui précède. Vous avez parlé, par exemple, du rapport de Monsieur Prévost par rapport à du rapport de Monsieur Prévost avec la vérité, n'est-ce pas? Avec sa poésie, la vérité n'est pas un territoire à défendre. C'est de la pure poésie. C'est absolument pas rigoureux théologiquement. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ça permet à chacun de penser ce qu'il veut. Ça permet de conforter le musulman dans sa fausse religion, le juif, donc de religion dans sa fausse religion, l'adorateur du grand Manitou, ou de Bouddha, ou je ne sais trop quoi, Shiva et tout ce que vous voulez, ça les conforte. Pour eux, ce sont que des aspects de la soi-disant vérité qui est inconnaissable. Sous une apparence d'humilité, on pratique l'orgueil le plus grave. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on dilue toute la moralité. Vous allez me dire, oui, mais ils défendent la vie. Ils ont parlé contre ces lois iniques par rapport à la fin de vie, comme on dit aujourd'hui, ou l'euthanasie, qui est un terme mauvais. L'euthanasie, c'est la bonne mort. Pour le chrétien, il n'y a qu'une seule bonne mort. C'est la mort dans le Seigneur, avec les sacrements de la Sainte Église, et tel que le bon Dieu veut notre mort, tel qu'il l'a prévu de toute éternité, d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas à nous de choisir notre mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ben, il faut respecter la vie. Mais c'est faible tout ça. Par rapport à l'avortement, oui, il faut respecter la vie. C'est faible tout ça. C'est plus que respecter la vie. Il faut respecter l'être des choses. L'être des choses, c'est que l'homme n'est pas maître de sa propre vie. Il n'a pas à se donner la mort. Et il n'a pas à donner la mort, sauf, bien sûr, les exceptions. Peine de mort, droit de guerre, etc., ou bien la légitime défense. Mais ce sont des cas, évidemment, très particuliers. Mais donc, c'est évidemment, le problème est beaucoup plus profond. C'est pas, il faut défendre la vie, non. Le problème, c'est l'orgueil humain qui se prend pour Dieu. Et de véritables autorités de l'Église devraient le dénoncer, comme elles l'ont fait. Vous lisez le pape, en particulier Léon XIII, n'est-ce pas, vrai, sur ces questions de liberté, en particulier sur les questions familiales, etc., il est absolument lumineux. Ses textes sont magnifiques, clairs, précis, et qui éclairent les âmes. Aujourd'hui, ça n'éclaire rien du tout. Il ne s'agit pas de défendre la vie, il s'agit de défendre l'être des choses. Donc là encore, on a en fait une manifestation d'orgueil. On ne veut pas dire les choses. Bref, celui qui s'élève sera humilié, celui qui s'humilie sera exalté, sera élevé. Donc mes bien chers frères, veillons à lutter contre l'orgueil qui est présent en nous. Veillons à toutes les pensées ou les paroles par lesquelles nous avons tendance à dire « moi je pense ceci »,« moi je pense cela », etc. Ce que nous avons à savoir, c'est pas à penser ce que nous voulons penser, c'est à penser ce que Dieu pense, à penser ce que l'Église pense, à agir selon ce que Dieu nous demande, selon nos devoirs, et à agir évidemment selon aussi les commandements de l'Église, à obéir à l'Église. Donc notre jugement, il doit toujours être éclairé par le jugement de la Sainte Église. Ça n'empêche pas, il y a des domaines où il peut y avoir des opinions, évidemment. Mais dans les choses importantes pour notre salut, il n'est pas question d'opinion. Il y a des vérités, et des vérités de foi, des vérités de morale, et il faut agir selon ces vérités. De même, même dans la pratique de tous les jours, on revient souvent à tel ou tel commandement de Dieu ou tel ou tel commandement de la Sainte Église. Ce n'est pas à nous de décider ce qu'on doit faire. Enfin, on décide ce qu'on doit faire, mais on doit faire ce que nous dit le bon Dieu dans ses commandements, ce qu'il nous dit à travers les vertus chrétiennes, ce qu'il nous dit à travers les lois de la Sainte Église. Nous devons nous soumettre aussi à celles-là par obéissance. Et donc, c'est nous mettre à notre niveau. Et c'est nous rabaisser parce qu'on a tendance à se mettre au-dessus. Eh bien, si on s'abaisse, on sera élevé. Tandis que si on s'élève, on sera humilié. Donc demandons aujourd'hui particulièrement à notre Seigneur Jésus-Christ de nous faire progresser contre l'orgueil, de nous faire progresser dans l'humilité. Et pour cela, il faut pratiquer. Il faut pratiquer l'humilité, il faut pratiquer cette humilité de l'intelligence, il faut pratiquer cette humilité de la volonté dans l'obéissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.